Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi les salaires dans la construction sont-ils si élevés? Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 28 mai 2025 dans la presse. Les salaires dans la construction déclenchent toujours des réactions et des débats. Cette année, les travailleurs du secteur résidentiel réclament 8 % d'augmentation, ce qui porterait leur taux horaire de base à 45 $. Ce qui frappe l'imaginaire. Et pendant qu'on s'inquiète de la hausse du prix des maisons, un autre déséquilibre s'aggrave. Les hommes peu scolarisés s'enrichissent, pendant que les femmes sans diplôme piétinent. Xavier Parent-Rochelot est un expert en rémunération qui enseigne au département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal. Je lui ai demandé de m'identifier les boulots qu'une femme sans diplôme d'études postsecondaires peut faire pour gagner autant d'argent qu'un homme dans la même situation. Il a pris un moment pour regarder ses bases de données sur les salaires et m'a finalement répondu ceci. Je n'en vois pas. Ces quelques mots résument une situation, disons-le, dérangeante. Les hommes peu instruits ont de bien meilleures chances de gagner 100 000 $ par année. Ils peuvent notamment se tourner vers la construction, le camionnage, le secteur minier ou se faire embaucher dans un port. À Montréal, les débardeurs gagneront bientôt 200 000 $. Toutes les données démontrent que les Québécoises ont amélioré leur sort en matière de rémunération au fil des années. Mais des écarts persistent, et ce sont les femmes sans diplôme qui en souffrent le plus. En théorie, les femmes ont aussi accès à ces emplois bien rémunérés. En pratique, les obstacles sont nombreux. Conciliation travail-famille difficile, exigences physiques, barrières culturelles. C'est sans compter les commentaires sexistes quand ce n'est pas du harcèlement, comme ça se voit sur les chantiers municipaux où même les plus tenaces démissionnent. À l'heure actuelle, on ne compte que 7 800 femmes parmi les quelques 200 000 travailleurs de la construction du Québec, soit 4 %. Les femmes sans diplôme sont plus nombreuses à œuvrer dans l'industrie des services, comme le commerce de détail, l'esthétique, la coiffure, l'entretien ménager ou l'hébergement. Tous ces secteurs offrent une rémunération moyenne inférieure à celle de la construction qui, en prime, est assortie d'un régime de retraite à prestations déterminées et d'avantages sociaux. Des chercheurs avancent que les garçons décrochent plus souvent de l'école parce qu'ils savent que, même sans diplôme, de bons salaires les attendent, raconte Anne Plourde, docteur en sciences politiques et chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. Les jeunes filles ne peuvent pas avoir autant de certitudes sur leur avenir financier comme le démontrent les données. Les écarts déjà grands risquent de se creuser davantage. En mars 2025, des hausses de salaire de 24 % sur 4 ans ont été consenties aux travailleurs de la construction des secteurs institutionnels, commercial et industriel. L'Alliance syndicale réclame actuellement la même chose pour le secteur résidentiel. Des hausses de cette ampleur pèsent lourd sur le prix total des constructions, car la main-d'œuvre compte pour près de 50 % de la facture, précise Isabelle Demers, vice-présidente développement stratégique, affaires publiques et innovation à l'Association des professionnels de la construction de l'habitation du Québec, APCHQ. Pour un condo dans une tour, construit par le secteur commercial, la hausse des coûts de main-d'œuvre équivaudra dans 4 ans à une facture supplémentaire de 78 000 $ selon les calculs de l'APCHQ. Dans le secteur résidentiel, où les salaires sont moindres de 10,5 %, le prix de la maison moyenne bondira de 55 000 $. Pour un acheteur qui finance ce montant sur 25 ans à 4 % d'intérêt, le prêt hypothécaire grimpe de 289 $ par mois. Dans le secteur résidentiel, les patrons arguent que la capacité financière du grand public est limitée pour refuser l'augmentation de salaire de 24 % sur 4 ans qui est demandée. Les travailleurs, eux, font valoir qu'ils pourraient se faire embaucher par d'autres secteurs pour améliorer leurs conditions s'ils n'obtiennent pas les mêmes hausses que celles de leurs confrères obtenues en mars 2025. Je comprends les travailleurs de vouloir améliorer leur sort, comme tout le monde. C'est légitime. Mais, comme me l'a écrit Paul, un simple citoyen qui trouve déjà les salaires des charpentiers et des électriciens élevés, il n'y aura jamais assez de pauvres pour payer pour ça. Des pistes pour comprendre. Pourquoi les métiers de la construction sont-ils si bien rémunérés pendant que ceux occupés par des femmes continuent de traîner loin derrière? La loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande est une partie de l'explication. Ce n'est pas tout le monde qui veut travailler dans la construction, dans la chaleur, le froid, la poussière, la saleté. Il y a aussi un certain niveau de dangerosité, dit Isabelle Demers, vice-présidente développement stratégique, affaires publiques et innovation à la PCHQ. On pourrait répliquer que ce n'est pas nécessairement plus facile de changer des couches d'aînés ou de récurer les toilettes à quatre pattes, mais je laisse ce genre de comparaison aux experts en matière de rémunération. Le professeur Xavier Parent-Rochelot ajoute que les métiers de la construction exigent des cartes, ce qui veut dire une certaine exclusivité qui fait augmenter le niveau de rémunération. Le taux de syndicalisation. Dans la population en général, la proportion de femmes syndiquées est légèrement plus élevée, 41% contre 38% pour les hommes. Dans les emplois qui ne requièrent pas beaucoup d'études, c'est toutefois l'inverse. Dans la construction, les ports, le transport ferroviaire, les mines et les usines, les travailleurs ont pu compter sur le travail de leurs syndicats pour améliorer leurs conditions salariales. Dans l'industrie des services et des soins personnels, que ce soit la restauration, la vente au détail, l'esthétisme ou l'entretien ménager, des emplois à prédominance féminine, les syndicats sont moins présents. Celui qui signe le chèque. Une grande partie des travaux de construction est payée par l'État, écoles, hôpitaux, routes, et par des entreprises, centres commerciaux, usines, entreposages. Ces clients n'ont pas les mêmes contraintes budgétaires que la petite famille qui achète son premier bungalow de peine et de misère. Les entreprises peuvent, par exemple, amortir leur investissement sur de nombreuses années, ce qui amoindrit en quelque sorte la facture finale. Les rôles traditionnels. On sous-évalue souvent les compétences requises pour exercer les métiers à prédominance féminine. Xavier Parent-Rochelot donne deux exemples concrets. Être exposé à la détresse humaine et devoir exprimer de l'empathie envers les patients à longueur de journée. Ces exigences sont plutôt vues comme des talents innés, comme un prolongement naturel de ce qui est accompli à la maison. On va plus difficilement reconnaître que ça prend des compétences, une expertise et des qualifications pour être en mesure de bien accomplir les tâches, renchérit Anne Plourde, docteur en sciences politiques et chercheuse à l'IRIS. Cela a empêché les salaires de femmes de rejoindre ceux des hommes qui paraissent ainsi très élevés. Emploi socialement dévalorisé. La société a tendance à dévaloriser les emplois typiquement occupés par des femmes. Dans les CPE, il y avait des exigences de diplôme d'études collégiales pour occuper ces emplois-là. C'était moins payé que les métiers de la construction où il faut un diplôme d'études professionnelles. Et là, on nous dit depuis des années que ce n'est peut-être pas nécessaire d'avoir ces qualifications-là et on réduit les exigences. Ça dévalorise l'emploi, expose Mme Plourde, ce qui a un impact direct sur les salaires. Encore une fois, on peut se poser la question, est-ce que le milieu de la construction paie trop ou est-ce plutôt celui des CPE qui ne paie pas assez? deux phénomènes fascinants. Certains milieux gagnent de l'attrait auprès des hommes à mesure qu'on améliore les conditions de travail et qu'on dit qu'il faut des compétences, explique Mme Plourde en donnant l'exemple de l'informatique. Au début, c'était des femmes qui utilisaient les ordinateurs pour faire des calculs, comme on l'a vu dans le film qui se passe à la NASA dans les années 1960, « Les figures de l'ombre ». C'était le prolongement du secrétariat. À mesure que ça a été valorisé et qu'on a augmenté les exigences, l'informatique s'est masculinisée. Autre phénomène digne de mention, les études montrent que dans les milieux traditionnellement féminins, les hommes vont gravir les échelons très rapidement pour devenir gestionnaires, patrons ou porte-parole. On parle de plafond de verre pour les femmes, tandis que les hommes ont accès à un escalier roulant de verre, conclut la chercheuse. C'était pourquoi les salaires dans la construction sont-ils si élevés? Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 28 mai 2025 dans La Presse.
Le Québec doit bâtir des alliances à l'international, un texte de Véronique Guèvremont, paru le 29 mai 2025 dans La Presse. Véronique Guèvremont est membre de l'École supérieure d'études internationales, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Le 22 mai 2025, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, a déposé le projet de loi 109, affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. De toute évidence, il s'agit d'une étape majeure pour la promotion des œuvres culturelles francophones. Cependant, pour atteindre ses objectifs en matière de découvrabilité, le Québec ne peut seulement agir par ses propres outils législatifs. Pour s'attaquer à cet enjeu qui dépasse largement le cadre québécois, il doit aussi chercher à bâtir des alliances. Car le fait que l'environnement numérique pose des défis pour le maintien de la diversité culturelle est une réalité pour la vaste majorité des États et des nations. Le déploiement d'une stratégie internationale s'impose donc. Des actions sur trois fronts. Un tel constat avait été formulé dans le rapport sur la souveraineté culturelle à l'ère numérique, présenté aux ministres en janvier 2024 par le Comité Conseil sur la découvrabilité des contenus culturels. Près du tiers des 32 recommandations formulées par le comité, soit les recommandations 4 à 16, portaient sur l'action internationale du Québec. Le comité recommandait plus spécifiquement au Québec d'agir sur trois fronts : développer une stratégie commune avec la France, stimuler le dialogue avec les ministres de la culture de la francophonie, promouvoir sa position sur les enjeux de découvrabilité au sein de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO de 2005. Force est de constater que le Québec est actif sur chacun de ces trois fronts. Sur le plan bilatéral, le ministre de la Culture a rencontré à Paris en février 2025 son homologue française, Rachida Dati, en marge du sommet pour l'action en IA. Les deux ministres ont alors présenté la nouvelle stratégie France-Québec 2025-2030 pour favoriser la diffusion des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique, dont l'un des thèmes est le développement d'outils favorisant la découvrabilité. Cette stratégie doit aussi permettre au Québec et à la France de rallier d'autres États de la francophonie ainsi que d'autres espaces linguistiques afin de faire front commun pour améliorer la découvrabilité des contenus culturels dans l'environnement numérique. Au niveau de la francophonie, le ministre de la Culture joue également un rôle proactif en matière de promotion des enjeux de découvrabilité. La Ville de Québec a d'ailleurs accueilli la 5e conférence des ministres de la Culture de la francophonie du 22 au 24 mai 2025. Dans la déclaration finale adoptée à l'issue de cette conférence, les ministres ont exprimé leur volonté de soutenir la création, la diffusion et la découvrabilité d'une diversité de contenus culturels locaux et nationaux, en particulier ceux en langue française, et de porter une position concertée dans les enceintes internationales dont les travaux peuvent concourir au renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l'environnement numérique, notamment l'UNESCO. Pour ce qui est de l'UNESCO, le ministre de la Culture s'est rendu plusieurs fois à Paris ces deux dernières années. Sa participation à la 9e session de la Conférence des parties de la Convention de 2005 de juin 2023 a permis au Québec de jouer un rôle actif dans la définition des 4 thèmes prioritaires couverts par le mandat attribué au groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, soit la diversité linguistique des contenus culturels, la découvrabilité des contenus nationaux et locaux, la transparence des plateformes et l'impact de l'intelligence artificielle sur les industries culturelles et créatives. Le Québec, un acteur clé de la diplomatie culturelle. Le Québec a aussi accueilli la première réunion de ce groupe de réflexion en mai 2024 et appuyé ses recommandations publiées en décembre de la même année, y compris celles visant l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention de 2005. Un tel protocole aurait vocation à compléter cette convention en énonçant une liste d'engagements additionnels visant, entre autres, à favoriser la découvrabilité des contenus nationaux et locaux. Les décisions qui seront adoptées lors de la 10e session de la Conférence des parties à la Convention de 2005, en juin prochain, seront déterminantes quant à l'avenir de ce projet de protocole. Par ses actions tant nationales qu'internationales, le Québec fait donc preuve de cohérence, mais surtout de lucidité. Ce dossier de la découvrabilité ne peut en effet être porté seul. Il requiert des alliances. Plus de 20 ans après l'adoption de la Convention de 2005, qui fut l'un des plus grands succès de la diplomatie québécoise, ce nouveau front en faveur de la découvrabilité des contenus culturels que le Québec travaille à bâtir montre à quel point le rôle de cette diplomatie québécoise demeure crucial. Alors que la tentation du repli sur soi gagne du terrain, promouvoir la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique, des plateformes et de l'IA nous rappelle une chose essentielle: les vertus du dialogue, de la coopération et de l'action collective. C'était « Le Québec doit bâtir des alliances à l'international », un texte de Véronique Guèvremont, paru le 29 mai 2025 dans la presse.
Semaine de chasse sans chasse. Un texte inédit de Moira Wachteskoun-Bacon, paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Jolie autochtone ». Assis en bordure du terrain sur lequel le reste de ma classe s'affronte dans une partie de ballon chasseur, j'ai la vue parfaite pour m'amuser de mes camarades qui reçoivent le ballon rouge en plein visage. Aujourd'hui, toutefois, même ce spectacle ne parvient pas à me tirer un sourire comme à l'habitude. De ma position, j'entends les confidences de filles qui, après avoir été éliminées de la partie, se sont réunies sous l'unique arbre de la cour pour y flâner jusqu'au son de la cloche. Elles préparent leurs manigances pour la semaine prochaine. Pendant le congé de la semaine de chasse, une grande partie de la communauté se retrouvera en territoire. Je devais y être aussi. Je devais mettre le pied sur le sol qui commence déjà à geler, humer le parfum des conifères qui gardent le territoire et qui veillent sur moi depuis que je suis née. Je marcherai entre les arbres, dans les pas de mon père, ma carabine à plomb accrochée à l'épaule. Mais je n'y serai pas, en raison de la large botte grise qui couvre mon pied et d'un rendez-vous chez l'orthopédiste prévu en plein milieu de la semaine de chasse, mes parents préfèrent que je reste à la maison avec Léane, ma grande sœur. Pendant que tous mes amis vont chasser et jouer ensemble en forêt, je devrais me résigner à pourrir dans mon lit jusqu'à la fin du congé. La distance n'effacera pas seulement ma présence. Dans l'esprit de ma famille et de mes amis, qui seront concentrés à traquer le gibier, je deviendrai une figure floue. Ils se créeront des souvenirs sans moi. Ce n'est que lorsqu'ils verront, à leur retour, mon visage écrabouillé à la fenêtre de ma maison, qu'ils se souviendront de moi, le garçon exclu de leurs nouvelles aventures. Je lâche un énième soupir, écrasé contre la clôture métallique derrière moi, lorsque Sacha se laisse choir à mes côtés. C'est le seul garçon de ma classe que je ne connais pas. Originaire de Manawan, il vient tout juste d'arriver à Mashtuyach. Dans ma bande d'amis, il y a d'autres Atikameks qui viennent de Manawan ou de Wemotasi, mais ils ont grandi ici avec les natifs de la communauté. À notre âge, lorsqu'un nouveau gars arrive à l'école, nous ne savons jamais comment bien l'intégrer à notre groupe. Ce n'est plus aussi facile que lorsque nous étions hauts comme trois pommes. Sacha, visiblement de nature discrète, ne nous aide pas en ne faisant aucun effort pour se rapprocher de nous. La partie de ballon chasseur s'éternise. Pour m'aider à endurer la récréation la plus longue de toute ma vie, je me mets à converser avec mon nouveau camarade de classe. Est-ce que tu retournes dans ton coin pendant la semaine de chasse? Non, mes parents travaillent. Ils vont m'inscrire au service de garde pour toute la semaine. J'aime fréquenter la garderie scolaire, même si je commence à être un peu vieux pour y aller. Pendant la semaine de relâche, les enfants reçoivent la permission d'y apporter leur console de jeux vidéo et ils peuvent passer la journée entière à jouer, agglutinés devant la grosse télévision hissée sur des roulettes. Avant que Léane ait l'âge de me servir de gardienne, je m'y rendais et je pouvais profiter de la richesse des autres. Je marmonne sur un ton assez audible pour que Sacha puisse m'entendre. « Chanceux !» Sacha se rembrunit. Il recroqueville son corps déjà petit et courbé encore plus. Je comprends alors qu'il ne se considère pas aussi privilégié, qu'il ne veut vraiment pas passer la semaine au service de garde. Pourquoi? Aucune idée. Une impulsion m'anime. Des mots jaillissent de ma bouche comme d'un geyser avant que je ne puisse les arrêter. Tu veux venir chez moi à la place? Les yeux sombres de Sacha s'illuminent et il acquiesce d'un hochement de tête. Le lundi suivant, les parents de Sacha le déposent chez moi avec un sac à dos et une console Nintendo. Léane et moi déplaçons le matelas de mon lit pour l'installer au sous-sol, collé à celui réservé aux invités. Ma sœur dépose des couvertures en pile sur le dessus, sans prendre la peine de les étendre. Du Léane tout caché. Pendant que Sacha connecte la console à la télévision, je dispose les couvertures de façon à couvrir les taches d'origine inconnue qui constellent les matelas. Nous attaquons les jeux de Sacha. Nourrir surplombe les « Let's go » enjoués du célèbre personnage rouge moustachu qui court dans l'écran. Puis, nous changeons de jeu et cette fois, nous retenons notre souffle lorsque nous guidons le héros entièrement vêtu de vert à travers les aventures qui marquent sa destinée. La fraîcheur automnale s'infiltre dans le sous-sol et m'arrache un frisson. J'ai de plus en plus de mal à ignorer la colonie d'araignées qui a élu domicile dans un coin du plafond. Sans parler de la fenêtre qui ouvre sous la galerie où des jeux entreposés tracent des ombres menaçantes. Je propose donc à Sacha que nous sortions prendre l'air un peu. Dehors, sans voisin pour briser le calme inhabituel de la communauté, seul le souffle du vent parvient à mes oreilles. J'essaie de ne pas penser à toutes les aventures que vivent mes amis partis en territoire et me laisse tomber sur l'une des chaises longues placées sur la galerie. Sacha, lui, reste debout à mes côtés. Mon silence semble le rendre mal à l'aise. Je lui proposerais bien que nous nous lancions le ballon ou que nous fassions la course autour de la cour, mais mon pied blessé ne me le permet pas. Me rappeler toutes les activités qui me sont interdites efface toute la joie que je ressens depuis l'arrivée de Sacha chez moi. Mon nouvel ami se met à arpenter la galerie. Il longe la rambarde, contemple les pots de fleurs de ma mère et monte la marche qui mène à la plateforme surélevée du balcon. Sacha se positionne au centre de ce qui ressemble soudainement à une estrade. Un souvenir émerge, celui de Léane qui danse sur la plateforme et moi qui rigole. Un bon souvenir. Tu veux me faire un spectacle? Sacha se retourne vers moi pour me sonder du regard, comme pour vérifier si ma demande est sérieuse ou s'il s'agit d'une blague. Un spectacle de quoi? De n'importe quoi. Sacha réfléchit un moment. Derrière les mèches de cheveux que la brise souffle sur ses yeux, il arbore une mine songeuse. Que va-t-il me présenter? L'anticipation me retient de lui avouer que ma demande n'avait rien de sérieux. Au bout d'un moment qui me semble interminable, Sacha s'agenouille au sol et se recroqueville sur lui-même. Comme pour imiter une roche. Il maintient sa position quelques secondes avant de s'ouvrir, de se réveiller. Il déroule son dos courbé. Il déplie doucement les bras. Je reconnais à ce moment l'éveil de la forêt. Ce n'est pas une roche, c'est un arbre qui s'étire. Une fois la forêt tirée de son assoupissement, les animaux arrivent pour l'habiter. Sacha tend les bras de chaque côté et bat des ailes pour jouer une perdrix. Pour rire, je positionne mes mains comme si je tenais une carabine invisible et j'imite le bruit de détonation du canon avec ma bouche. En bon comédien, Sacha s'effondre au sol de façon dramatique, mais se redresse aussitôt pour imiter un caribou qui renifle la carcasse de l'oiseau touché par balle. Nous rions de plus belle. Je suis toujours coincée à Mashtuyach. Ma famille et mes amis se retrouvent, eux, sous le couvert du plafond vert de la forêt et profitent du congé, loin de moi et de ma botte grise limitante. Mais en ouvrant les rideaux sur son spectacle, Sacha a amené la forêt à moi le temps de quelques minutes. Grâce à lui, je peux aussi profiter de ma semaine de chasse. Une semaine de chasse, sans chasser, avec mon nouvel ami. Et un peu d'imagination. C'était « Semaine de chasse, sans chasse », un texte inédit de Moira Wachtescoun-Bacon, paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ». ».